switching on the radio, looking up to the sound. That's not my colors. This is my new generation.
Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que...
Il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Le Togo se dirige vers l'harmonisation des programmes de formation en licence dans ses universités publiques. Un atelier national de validation des programmes harmonisés de formation professionnelle dans l'enseignement supérieur débute ce 26 mars au village du Bénin à l'université de Lomé. Il s'agit pour le ministère de tutelle, organisateur de ces assises, de finaliser le processus d'harmonisation des programmes de formation en licence lancée depuis plusieurs années avec des révisions minutieuses des programmes existants et l'implication des principales parties prenantes du secteur éducatif, des universités publiques et des associations, des promoteurs, des établissements privés d'enseignement supérieur. Le sujet est évoqué ce matin par le journal L'Union. Je l'aborderai avec mes confrères journalistes, avec moi en studio. Nous parlerons certainement d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 25 mars 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Akoutsa était la mise en onde. Je suis Pascal Osso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous le savez très bien, vous pouvez aussi nous suivre sur nos médias en ligne ou du moins sur nos plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Aussi, vous pouvez nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Eric Parcoudo. Johnson, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Je vais bien par la grâce de Dieu, merci.
Pratiquement deux mardis, vous nous avez manqué.
Oui, justement parce que j'avais quelques impératifs, quelques occupations.
D'accord.
Toutes mes excuses pour ceux qui nous suivent généralement.
Excuses acceptées, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Isidore Color.
Bonjour Pascal, bonjour à l'invité, bonjour Eric. Et bon retour.
J'espère que vous allez bien, Isidore.
Togolaisement bien.
Togolaisement bien, et ça veut dire?
Ça veut dire, si la nation se porte bien, nous nous portons aussi bien.
D'accord.
Si la nation est malade, nous sommes aussi malades.
Votre état de santé, c'est l'état de santé même d'ailleurs de la nation qui reflète votre état de santé, c'est bien ça?
Oui, et beaucoup de gens le disent, les Togolais sont tous dans les rues, vous les voyez, nous sommes tous des malades.
On ne peut pas dire quand même que nous sommes tous des malades.
Mais non, les gens en font les mines. Quand vous passez, vous ne voyez le reflet du bonheur dans le visage des Togolais. Le pays est malade. Nous sommes aussi malades.
D'accord, Isidore, merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si Claude se porte aussi togolaisement bien. Claude, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Bon, Koussi Koussa. Hein,
ah, mais vous avez changé quand même de langage, Koussi Koussa. Plus ou moins, ça va.
Ouais.
D'accord. Merci de répondre toujours à notre invitation pour cette chronique dénommée La Bibliothèque animée que nous animons chaque mardi au début alors de cette émission. Alors, Claude, la dernière fois, nous avons introduit une nouvelle œuvre par rapport à notre thématique histoire et fiction. C'est La Folie de Salomé, de l'écrivain Sékou Kadjangalbalo. Vous nous avez parlé de deux personnes emblématiques qui sont tous deux des opposants au régime de ce que l'auteur appelle Baba. Baba, c'est également un nom qu'on a souvent aussi entendu plusieurs fois tout au long de notre crise politique de démocratisation au Togo. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnages du même bord politique dans la pièce, c'est-à-dire Salomon et Rakoslinkov?
Hey, c'est pas Salomon, c'est Salomé.
Ah, c'est Salomé plutôt,
bon,
justement.
Salomé, oh, oui, Salomé. Bon, et Salomé, c'est une militante de ce que Maître Aboubo a appelé un militant de la démocratie. C'est-à-dire quelqu'un qui veut seulement la démocratie pour le peuple, c'est-à-dire la justice pour les misères en colère. Là, je suis en train de citer l'auteur, la justice pour les misères en colère, les gens qui ont faim, qui ont le ventre emplati, qui ont leurs dents inutiles dans leur bouche. Hein. Voilà à peu près ce que est Salomé. C'est une femme d'ailleurs, c'est comme dans la Bible. Salomé. C'est un militant de la démocratie. Et Raskolnikov, plutôt, c'est un militant de parti. Et ça change tout. Et parce que Salomé pense que lorsqu'on est là, on est dans un parti, il y a le piège, là encore je cite, le piège des gros bobos, des costumes trois pièces, avec une cravate roussant. Le pied des tapis rouges à l'aéroport. Là, il parle du pouvoir. Il y a la tentation du pouvoir. Et lorsqu'on met les deux, combat et désir de conquérir le pouvoir, on se mélange beaucoup. C'est ce constat toujours d'actualité. On le voit. Hein, des gens qui luttent et qui se mettent même des bâtons dans les roues. Et on le voit un peu partout en Afrique, voilà.
Mais c'est monnaie courante en Afrique, c'est ce que vous voulez dire.
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord. Oui, mais quelque part dans la pièce, l'auteur reprend aussi une critique courante que le pouvoir, même l'opinion en général, tient. Et cette critique selon laquelle les leaders de l'opposition se servent du peuple seulement comme une chair à canon, à la page 57, reprenant manifestement le massacre alors de la place Fréau, Salomé, bien sûr, le militant de la démocratie, déclare « Tous les meneurs de la manif s'étaient repliés à l'arrière-plan de la foule et accusaient aussi Raskolnikov qui se prenait pour un héros d'être aussi derrière. » Alors, Claude, que pensez-vous de cette critique?
Moi, je crois que devant un pouvoir violent, je ne vois pas comment les leaders peuvent toujours se mettre devant. Dans une manifestation. C'est offrir leur poitrine au bal. Sauf si l'on est Che Guevara. mais chez lui, il a opté pour une lutte armée. ce qui est contre-productif dans une lutte pour la démocratie. Lorsqu'on a pour objectif la démocratie, aller prendre des armes, et c'est plus dangereux que tout. Dans une lutte collective et pacifique, chacun doit, selon moi, mourir par ordre de mérite. Enfin, mourir par ordre de mérite.
Ça veut dire quoi, mourir par ordre de mérite?
Ça veut dire que les leaders, ce n'est pas eux les chômeurs, les misérables, les premiers victimes de l'injustice. Ce n'est pas eux. Et ceux qui sont au premier rang de la misère, c'est la population. La population doit prendre ses responsabilités. C'est ce que je crois souvent. C'est eux. Mais lorsque la population se tait, ne réagit pas, c'est pas la peine de la manipuler, à mon avis. C'est elle. On a vu le 5 octobre. Et lorsque la population s'est exprimée, là, on cherche un porte-parole. Et c'est autre chose. Mais lorsque vous tombez dans la manipulation et les armes, c'est très dangereux, on peut aboutir au chaos. Et le chaos est plus dangereux que ce que l'on recherche.
Justement, et ce n'est pas le chaos que nous voulons pour notre pays, c'est plutôt la paix, et c'est important.
Une paix juste.
Justement, une paix juste.
Il n'y a pas de paix sans justice.
Justement.
Je précise.
Justement. Alors, Claude, vous nous avez annoncé la dernière fois aussi un deuxième axe d'opposition de Salomé à l'opposition. C'est le moment alors, sans doute, alors de nous dévoiler ce tasse.
Oui,
c'est quoi ce tasse?
Salomé ne s'oppose pas seulement aux intellectuels qui sont dans les rues, qui sont des meneurs. Et vous savez, c'est une opposante à l'opposition. C'est l'opposition, lui, elle fait plutôt, c'est une femme, l'opposition à l'opposition. Le thème n'est pas de moi, mais de Afan Wenoumadi, qui est le préfacier de Sékou. Et Sékou qui n'est pas nécessairement d'accord avec le pouvoir. Le pouvoir dans l'œuvre, et Salomé, il s'identifie à Salomé, le poète, qui ne veut pas corrompre la lutte démocratique, qui reste, n'est-ce pas, militant de la démocratie, et qui s'oppose à un personnage clé de la pièce, le prêtre. Le prêtre dans la pièce, c'est le seul personnage qui n'a pas un nom propre. On l'appelle seulement le prêtre. Et tous les autres personnages ont un nom propre. C'est pourquoi l'auteur le fait, il l'a fait sciemment. L'auteur veut nous faire voir seulement, il veut nous faire voir le personnage rien que dans sa fonction. Dans sa fonction. Et quelque part, Salomé va l'appeler clairement l'archevêque. L'archevêque. Et là, on comprend vite de qui il s'agit dans la réalité togolaise. Et de la réalité togolaise. Salomé sera très violente contre son engagement. L'engagement de ce prêtre qui est le même que celui... Le engagement de ce prêtre est le même que l'engagement de Raskolnikov. Les intérêts... C'est ça ce que il reproche. Et chez ce poète célèbre attaché à la pureté, parce que elle veut une lutte pure, je me demande si c'est possible en politique, et le prêtre est allé dans la prison pour chercher la signature crédible et obtenu un embargo contre le pouvoir. Et c'est là où Salomé n'est pas d'accord. Et il suffit de voir, de constater sa violence verbale contre ce prêtre-là. Et je vous cite quelques passages.
Oui, rapidement.
Excellence Monseigneur l'Archevêque. Là, vous voyez, c'est clairement l'Archevêque. Excellence Monseigneur l'Archevêque. Je décortique sur votre robe des caillots de sang. Vous manquez d'élégance. Qu'allez-vous faire maintenant pour cacher toute cette vilainie? La réflexion que cette position de Salomé inspire, contre le prêtre, est la question suivante. Jusqu'où un prélat ou l'Église tout entière doit aller dans l'engagement sociopolitique? Dans le chemin de croix de Kanye Alem, à qui d'ailleurs, au fait, Sékou Kadjambalo répond, Il semble répondre à cette pièce de Kanyalem. La folie Salomé répond à cela. Le prêtre aumônier chez Kanyalem est accusé d'être avec le pouvoir. Chez Sekou, c'est un scandale que le prêtre soit avec l'opposition. Il s'agit de l'Église catholique surtout. L'Église catholique surtout doit se sentir embarrassée. Et on la voit dans la réalité avec le père Afonion qui s'est engagé un moment et puis s'est vite retiré. Et on a vu même dans la réalité Monseigneur Barriga jouer le rôle de critique,
CVJR.
Oui. Un rôle neutre à CVJR. Rôle de médiation. Mais ça n'a rien donné. Et il a même l'impression d'avoir été manipulé. Dans cette petite phrase, vous sentez qu'il donne l'impression d'avoir été manipulé. Il exprime sa décision. Hein? Et est-ce que l'Église doit observer une neutralité ou plutôt adopter la théorie de la libération comme en Amérique du Sud? En Amérique du Sud, les prêtres sans masque à visage découvert s'engagent activement aux côtés du peuple, même armé, dans une lutte musclée. Et on a vu même cette tendance chez un prêtre au Cameroun. C'est un prêtre célèbre qu'on appelle Jean Makela. Il a dû s'exiler à visage découvert. Il s'engageait aux côtés de la population.
D'accord. Merci Claude d'être passé alors dans cette émission. Nous rappelons juste que c'est la deuxième partie de cet ouvrage La folie de Salomé de l'écrivain Sekou Kajanga Balo que nous avons décortiqué avec Claude. Déjà, Isidore, un mot?
Non, que dire? C'est peut-être l'histoire de la vie politique que on est en train de retracer sous d'autres formes et des phrases à peine voilées. Et quand on parle du prélat ou non du prêtre, on sait le rôle que les prêtres ont joué dans la vie politique du Togo, commençant par la conférence nationale souveraine et le Parlement qui était constitué, et le HCR, et CVJR, toutes ces choses, et tout dernièrement, l'engagement à visage découvert de Monseigneur Boudreau en faveur d'un candidat. Donc, toutes ces choses-là, mais je dis que ça ne révèle pas seulement du Togo. On a vu ça au Bénin. Les prélats ont joué un grand rôle.
En RDC également.
En RDC, à Sanko, c'est ça. Aujourd'hui, qui aussi continue toujours pas à lutter en faveur de la population. Donc, ce n'est pas seulement le Togo, au Togo qu'on voit ça. Et tant que la justice sociale n'y est pas, il est du devoir. Non seulement des prêtres, mais des représentants de Dieu sur terre, comme les nomme, que ce soit des imams, que ce soit des pasteurs, ils doivent prendre leur bâton de pèlerin pour moraliser la vie politique.
Merci Isidore. Oui, Eric.
Oui, c'est vrai, moraliser la vie politique. Si nous prenons nos sociétés aujourd'hui, vous avez des prélats, vous avez des prêtres qui sont là pour tout le monde. Vous avez à l'église et l'opposition et ceux contre qui cette opposition-là se dresse. Et donc, quel doit être alors
La position du prêtre,
c'est là où se pose un vrai problème. Quand Isidore parle de moralisation de la vie politique, Je pense que c'est réellement le rôle que doivent jouer ceux qui sont des pasteurs de Dieu. Pourquoi ? Parce que, vous savez, lorsque vous prenez position, je raconte souvent une anecdote avec un membre influent de l'ANC et d'un monsieur qui est de la mouvance présidentielle, qui est de UNIR. Quand il se retrouve à l'église, mais le membre de l'ANC, il vient très tôt, il vient au culte de 8 heures. Et quand il sort, c'est en ce moment que le membre du NIR arrive au culte de 10 heures. Et quand il se retrouve, il se salue, il dit « Ah, que l'opposition a déjà fait sa part, il faut aussi faire votre part. » C'est juste une anecdote.
Chacun doit faire sa part.
Chacun doit faire sa part. Et quand vous mettez le pasteur entre ces deux, monsieur, vous voyez qu'il doit jouer plutôt ce rôle de moralisation au lieu de se pencher d'un côté au risque de frustrer une partie de la population. Certes, il y a des prélats qui ont pris quand même sur eux de porter une certaine lutte. Et là, c'est vrai que l'Église alors, qui est le corps de Dieu, se divise. Est-ce qu'il faut être dans cette posture? C'est là la vraie question que je me pose en écoutant tout ce qu'a écrit
Sékou Kadagabalo. Merci voilà. Beaucoup, ses confrères. Merci Claude d'être passé dans cette émission.
Un petit mot.
Oui, rapidement.
Non, c'est la question est jusqu'où aller, c'est tout.
Voilà.
Jusqu'où aller? On ne dit pas que le vide ne doit pas se mettre. Jusqu'où aller? La ligne rouge.
C'est-à-dire la ligne de démarcation, c'est flou. Voilà.
Voilà.
C'est difficile. C'est flou, oui, justement, c'est flou de trouver cette ligne de démarcation.
On a dû basculer dans un camp ou dans un autre.
Et voilà. Ça fait toujours débat dans l'opinion. Merci Claude d'être passé dans cette émission. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Nous allons nous retrouver le mardi prochain pour un nouveau numéro de cette chronique. Merci. Oui, chers confrères, nous allons aborder notre premier sujet. Il s'agit alors du sport. Nous allons aborder cela parce que aujourd'hui, c'est la sixième journée. Sixième journée pour les éliminatoires pour le Mondial 2026. Et déjà, aujourd'hui, il y a 15 matchs qui sont à l'ordre du jour et dont le match Togo-Sénégal, c'est à partir de 21h au Sénégal, bien sûr, puisque vous le savez très bien, la dernière fois le Togo a joué la Mauritanie ici, vous connaissez bien sûr le score et c'est 2 buts partout, match nul. Et il y a le journal L'Équipe qui est revenu sur le sujet, le journal qui écrit Mondial 2026 Togo, toujours la soupe à la grimace. Alors, Isidore, quand on prend aujourd'hui la prestation de l'équipe nationale par rapport au Mondial 2026, vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi le match Togo-Mauritanie la fois passée, et finalement, est-ce que vous pensez que déjà le Togo pourra faire justement le poids devant le Sénégal qui est même d'ailleurs champion en titre pour ce qui concerne le continent?
Bon, que dire, il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis plus les matchs des éperviers.
Au bon, risque, pourquoi
non, au risque de m'énerver pour rien du tout.
Quoi, notre football vous énerve?
Mais ce que sont en train de faire là, est-ce que vous avez confiance? Est-ce que vous pensez que le Togo peut sortir pour les mondiales? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il vaut mieux investir dans d'autres choses que dans le football masculin. Je suis désolé. Ces gens sont venus, c'est comme s'ils sont venus seulement pour avoir leur perdiem, ou bien comment vous l'appelez. Ce ne sont pas des perdiem. Mais ils sont riches.
Les primes
de match qui caracole les millions et quelques, nous autres, nous n'en avons pas. Mais et ils sont là, c'est comme si ils ne veulent pas mouiller le maillot. Moi, les éperviers n'arrivent plus à me convaincre. Je croyais que Daré pouvait faire quelque chose. Nous étions de ceux qui disaient que bon, il avait les poignes, mais à l'œuvre, on a l'impression qu'il n'a pas les poignes.
Mais est-ce que c'est pas trop tôt quand même de...
Mais combien de matchs il nous reste pour qu'on soit parmi les équipes qui vont participer
pour
2026. Ce n'est pas possible. Revenons à nos réalités. On n'a jamais été, depuis même la CAN, on ne sait plus présenter. Mais quand vous revenez, quand vous voyez la prestation des Togolais dans les années 70-80, mais aujourd'hui, ce qu'on fait là, je pense que ces joueurs-là ne sont venus que pour leur prime. Hein, leur prime de match, ils ne veulent pas mouiller le maillot. Alors qu'à l'époque, quand vous portez le maillot togolais, c'est une fierté. Et le choix même des joueurs, moi, je ne sais sur quels critères on le fait. C'est devenu un business. Merci. C'est devenu un business. Moi, je n'y crois plus.
Merci Isidore. Oui, Eric, est-ce que vous croyez justement, ou est-ce que la prestation de l'équipe nationale vous convainc?
Très sincèrement, si quelqu'un dit aujourd'hui que l'équipe nationale arrive à le convaincre, je dis c'est pas sérieux. Parce que quand vous suivez les matchs, nous étions tous au stade le samedi dernier, et ce qu'on a constaté, c'est que il y a de cela 6 mois, on disait qu'il y avait quand même quelque chose qui avait commencé. Il y avait un début de quelque chose. Mais du fait que ces joueurs-là, en majorité, ne jouent pas dans les championnats. Ils sont appelés, on se dit peut-être à cause de leur nom. Je ne vois pas de fond de jeu, personnellement. Je ne vois pas de fond de jeu. S'ils font des mouvements, ils arrivent au niveau de la surface de réparation, on dirait que ils s'oublient. On avait, à la première mi-temps, lors de ce dernier match contre la Mauritanie, le Togo pouvait faire déjà 5-0 à la première mi-temps. Mais on n'a pas compris du tout ce qui s'était passé et ils n'arrivaient pas à marquer de but. Et d'aucuns disaient sur le terrain, dans les tribunes, que c'est une malédiction. Mais c'est quoi cette malédiction qui ne se passe que chez nous? Nous arrivons à aller dans la surface des gens, nous n'arrivons pas à marquer. Le dernier geste qui doit être salutaire ne suit jamais. Mais on a marqué, on est revenu sur le terrain et en moins de 5 minutes, on reçoit 2 buts. Mais tout le monde était là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu merci, on a pu égaliser. Mais face à une équipe comme le Sénégal, je vais vous dire ceci.
Allez-y.
Aliou Cissé, quand il était coach du Sénégal, des Lions
de la
Teranga, il avait mis une certaine discipline. Je voudrais vous signaler que la dernière fois, il y avait eu une manifestation à l'hôtel du 2 février où étaient les joueurs, nos joueurs. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Autour de 22 heures, les joueurs étaient encore en train de circuler dans le hall de l'hôtel.
Je l'ai vu également parce que j'étais à l'hôtel.
Et là, je dis, mais ce n'est pas une discipline d'équipe. Parce que, quand je parlais d'Aliou Cissé, c'est que il y avait même des militaires derrière les joueurs. Quand vous arrivez au campement, il y a des militaires qui sont là, qui vous suivent. Vous n'avez pas droit à l'erreur.
pour gagner la CAN, c'était une discipline d'équipe. Ici, on ne l'a pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Les joueurs arrivent au campement, alors on dit, ah, il est revenu, les parents arrivent, on laisse les parents, on laisse le joueur recevoir les parents, ils sont là à longueur de journée.
Leurs copines ?
Je veux même pas aller jusque là parce que je peux pas déterminer je peux pas distinguer copine de parents. Donc je dis les parents, et donc ce sont des attitudes qui ne sont pas dignes des gens qui veulent aller loin, des gens qui font du football professionnel, des gens qui doivent défendre le maillot d'un pays. Chez Aliou Cissé, quand vous arrivez sur le terrain, vous finissez les entraînements. Quand on dit top, c'est que tout le monde est là. On ne va pas commencer par chercher, ah, on l'a vu, il est passé par ici, il était de l'autre côté. Non, ça ne se passe pas comme ça avec Aliou Cissé. Et donc, je crois qu'il faut qu'on instaure une certaine discipline au sein de l'équipe nationale. La deuxième chose, c'est que quand vous arrivez sur le terrain, il y a eu une attitude de le capitaine adjoint
de Saint-Louis.
Voilà. Mais quand il est arrivé sur le terrain, tout de suite, il y a eu un coup franc pour le Togo. Et un Mauritanien est venu prendre le ballon. Fallait le voir réagir. Ça, c'est quelqu'un qui se dit, attention, ici, on n'est pas venu pour blaguer. Quand la faute est contre, vous nous laissez le ballon, nous tirons. Mais quand le joueur est venu prendre le ballon, il lui a retiré le ballon, il a poussé. Et là, tout le monde a vu, tout le monde dit, ah, voilà. Mais il n'y avait pas ça sur le terrain avant son entrée sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut porter l'équipe. Et ça, c'est individuellement que chaque joueur doit le faire.
Merci.
Et maintenant, au niveau de la fédération. Je crois que la fédération s'échine à mettre à disposition des joueurs tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire un bon match. Et ça, je le salue aujourd'hui. Parce que avant, on se disait que la fédération s'impliquait même dans le choix des joueurs et tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On voit le staff très loin de l'encadrement. Et je dis, si aujourd'hui la fédération peut aider ce staff-là à instaurer une certaine discipline, je crois que nous pourrons aller loin.
D'accord.
Maintenant, par rapport au match de ce soir, nous sommes tous dans la prière parce que il ne faudrait pas montrer du doigt gauche sa propre maison. Je crois que nous devons continuer par prier pour que au moins le minimum un match nul au Sénégal.
Mais les Sénégalais ne vont pas non plus moins prier, puisque oui. Eux aussi vont toujours continuer pas prier. Ça, c'est clair.
Oui.
Donc, il faut une performance.
C'est ma maison.
Dieu n'est pas que Togolais.
Il n'est pas que Sénégalais non plus.
Justement. Alors, Adam, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Oui, mais justement, sur cette question du football, Isidore a évoqué la question de discipline, Eric également a évoqué la question de discipline, mais on se pose la question aujourd'hui de savoir, quand Nimobé Darié est venu à la tête alors de l'équipe nationale, on croyait justement que cette discipline doit être instaurée.
Vous savez, au moment de la concrétisation, en tout cas de toutes ces valeurs dont vous évoquez, parce qu'aujourd'hui se tient un match crucial, déterminant pour l'avenir donc de cette compétition, où nous prions tous que le Togo puisse faire partie pour une deuxième fois à la phase finale de la Coupe du Monde. Je pense que nous devons donc dépasser les limites du désespoir et faire en sorte que nous fédérons les énergies positives pour qu'ensemble nous puissions permettre à ce que le Togo gagne. Donc moi je me dis, poser comme tel, il y a quand même à dire lorsqu'on parle du football togolais. Mais moi je pense que aujourd'hui, nous n'en serons pas là. Il faudrait quand même que nous fédérons les énergies, faire en sorte que nous attirons à cette équipe-là des énergies positives pour qu'ils gagnent ce match. Voilà, c'est ce que moi,
le match, c'est à 21h, aujourd'hui 21h, et c'est au Sénégal, bien sûr, que cela se joue. Oui, nous allons quitter le sujet. On aborde un autre.
Oui. Excuse-moi, Pascal.
Oui.
On ne peut pas quitter ce sujet-là sans parler de nos autorités. Quand on veut aller loin, c'est qu'il faut préparer la base. Aujourd'hui, il y a de ces organisations qui ont mis en place des structures, des infrastructures pour pousser le football togolais à aller de l'avant. Mais ces infrastructures-là sont là parce que les gens n'ont pas de moyens. On ne les pousse pas à aller loin. Il faut que les autorités réagissent. De l'autre côté, nos championnats, si on n'organise pas ces championnats-là à temps pour mettre les joueurs en jambes, on sera obligé d'aller chercher toujours des joueurs expatriés, mais qui, ma foi, ne jouent pas dans leur équipe. Parce qu'ils sont, on dit, ils sont professionnels, ils sont dans une grande équipe peut-être, mais la dernière fois, tout le monde a remarqué quand même qu'il y a deux places qui manquaient. La place de Fodo là-bas et de l'autre, et Haïté. On a remarqué ça. Mais qu'est-ce que l'État togolais fait pour faire avancer le football?
Ça aussi, c'est une autre question.
Et c'est pour ça que je dis, quand nous touchons du doigt les problèmes qui sont inhérents à la fédération, sinon au club, aux éperviers, il faut qu'on touche du doigt aussi ce que font les autorités. Et c'est là qu'il y a beaucoup plus de choses à faire.
Mais Eric, est-ce que vous avez l'impression que l'autorité ou les autorités ne font rien pour l'avancement de ce football?
Je ne dirais pas rien, qu'ils ne font rien. Je dirais plutôt qui ne font pas suffisamment pour que le football togolais puisse aller de l'avant. Parce qu'à un certain moment, il faut se fixer des objectifs. Et ces objectifs-là, ce n'est pas forcément la fédération qui va les fixer. Hein. Mais si la fédération se dit, nous voulons aller à la Coupe du Monde 2026, mais il faut que l'État accompagne cette vision. Voilà.
Merci Eric. Nous allons aborder un autre sujet. On quitte le football. On s'intéresse maintenant à l'enseignement supérieur. Je le disais en début d'émission et vous l'avez titré même aussi aujourd'hui en parlant de l'harmonisation des programmes de formation professionnelle qui prend forme à l'université de Lomé, même d'ailleurs dans nos universités, parce que il y a un atelier qui démarre demain, mercredi 26. Et vous avez titré sur le sujet, Eric, enseignement supérieur, l'harmonisation des programmes de formation professionnelle prend forme. Un atelier national de validation est prévu du 26 au 28 mars.
Ouf, dirons-nous. Parce que cette harmonisation des programmes-là a été annoncée depuis. Et je crois que peut-être le ministre Malik Natchamba, on l'a reçu ici, on en avait parlé.
Tout à fait.
Et je crois qu'il nous avait promis quand même que ce sera fait dans les mois à venir. Tant mieux. Je crois que depuis les années, avant les années 80, il n'y avait pas d'université privée au Togo. Et donc, c'est l'État togolais qui a décidé, au vu de ce qui se passait dans l'unique université du Bénin, actuelle université de Lomé, où il y avait une surpopulation de cette université-là. Il y avait tellement d'étudiants, mais qui ne trouvaient pas de place des gens avaient leur bac, mais ils ne pouvaient pas continuer leur cursus scolaire par manque de place. Mais à partir des années 80, l'État a décidé, ok, nous allons ouvrir un peu le secteur pour que des gens puissent ouvrir des universités privées. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ces universités-là sont ouvertes et chacun de son côté donnait des diplômes. Des gens allaient faire leur licence, leur maîtrise et tout. Mais sur le terrain du travail, puisque ces diplômes-là n'ont pas de valeur vis-à-vis des diplômes nationaux et internationaux, alors ces jeunes-là qui ont, ils ont leur diplôme en main, mais ils ne peuvent pas être recrutés sur le terrain du travail. Et donc, je crois que l'État a pris conscience de cela et a décidé d'harmoniser quand même les programmes de formation professionnelle dans nos universités. Quand on parle de nos universités, y compris les universités publiques et privées. Et donc, je crois que c'est le 10 janvier 2024 qu'on a pris un décret en ce sens, en demandant à l'Office des examens professionnels du supérieur d'organiser et de délivrer les diplômes de licence et de master professionnel en garantissant quand même des évaluations nationales standardisées. Quand on dit standardisé, c'est qu'on met ça à un niveau où cela puisse être accepté au-delà de nos frontières. Et donc, à partir de ce moment, il y a beaucoup de travail qui ont été effectués pour que cela soit fait. Aujourd'hui, nous voyons que il y a un atelier de national de validation, de tout ça. Ça va permettre d'harmoniser les programmes de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, il y aura un examen national pour la licence où si vous avez une licence et que vous voulez, par exemple, continuer en master à l'université de Lomé, vous êtes obligé de faire une homologation de votre diplôme. Ça veut dire que vous devez subir encore un autre examen. Et donc, je crois que on en est là et sur le terrain. Ce que j'ai eu dans un document qui m'est tombé sous la main, c'est qu'il y a aujourd'hui 69 offres de formation en tenant compte de l'offre des emplois sur l'échiquier.
Merci beaucoup, Eric. Oui, Isidore, quand on prend aujourd'hui ce programme d'harmonisation, enfin l'harmonisation des programmes au niveau alors des universités, ça, on pourra dire que c'est un grand pas.
Oui, c'est un grand pas. Et je faisais partie de ceux qui plaidaient pour l'instauration d'un diplôme national au niveau de la licence et du master. Parce que les écoles, les universités privées se sont confrontées à, comment dirais-je, à un sérieux problème. Les universités privées ont commencé par les BTS. Et les BTS, le BTS, c'est un examen national. Les jeunes diplômés qui ont eu leur bac, comme on les soumet à un examen national qui est plus corsé, préfèrent aller faire leur licence dans les universités privées où les curriculums ne sont pas les mêmes. Vous passez d'une université privée à une autre, pour la même filière, vous n'avez pas les mêmes curriculums. C'est ce qui fait que parfois...
Et donc, vous n'avez pas les mêmes compétences non plus.
Vous n'avez pas les mêmes compétences.
Évidemment.
Mais il y a, et contrairement à ce que Eric disait, il y a une structure d'homologation. Si l'établissement a un agrément reconnu par l'État, vous allez et on voit votre bulletin, les notes que vous avez reçues, cette chose-là, et on vous délivre une homologation de votre diplôme qui vous permet d'aller dans la fonction publique. Et mais si vous voulez continuer, poursuivre vos études à l'université du Bénin, ou de Lomé ou de Kara, ils ont aussi leur structure d'homologation. Ils vont avoir le cursus que vous avez suivi et les UE, toutes ces choses-là. Donc, c'est à saluer. Mais alors, va se poser un sérieux problème.
Et c'est quoi le problème?
Le problème, c'est d'abord les enseignants. Les enseignants. Parce qu'il y a dans certaines universités privées des enseignants qui n'ont pas leur doctorat, mais qui ont une compétence avérée dans la formation. Aujourd'hui, avec l'instauration de diplômes d'un examen national, donc tous ces établissements privés doivent avoir des professeurs ou des enseignants qui ont le niveau requis. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la compétence. Donc, on va leur demander d'avoir leur doctorat, d'avoir leur agrégation avant de pouvoir dispenser des cours qu'ils faisaient depuis. C'est le problème, le premier problème auquel nous serons confrontés.
Ok.
Mais alors, est-ce que c'est les enseignants des universités publiques qui auront encore enseigné dans les universités privées, ou bien les universités privées qui n'ont pas d'enseignants, qui répondent aux critères, seront obligés de fermer leurs établissements.
Là, c'est aussi une autre question.
Oui, voilà, c'est à ce problème-là. Mais je fais remarquer que il y a depuis une direction de l'enseignement supérieur qui devait faire un travail de base, voir les calculs et faire des propositions. Bon, l'atelier de validation dont on parle là, je ne sais comment ça va se passer, mais on doit impliquer cette structure de l'enseignement supérieur pour que, bon, au-delà, il faut aussi faire des évaluations à thème échu. Donc, ce n'est pas seulement qu'en appelle-t-on première année, deuxième année, mais on ne parle plus de ça. On parle de semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4. Donc, il faut les évaluer au même moment. Donc, est-ce que l'État a les moyens de le faire?
Ça aussi, c'est une autre question. Oui, Adam, est-ce que vous voyez aussi le problème pour ce qui concerne l'harmonisation alors des programmes dans l'enseignement supérieur?
Je vais rappeler que le Bénin l'avait commencé, mais l'a déjà délaissé.
L'harmonisation?
Non, l'examen national.
National, ok.
D'accord. Oui, Adam, moi je dis, est-ce que vous voyez le même problème tel que Isidore l'a évoqué?
Vous savez, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que vous savez, l'enseignement supérieur est très bien gouverné. Les inquiétudes qu'évoquait Isidore tantôt, d'abord, il faut les séquencer sur plusieurs plans. Parce que d'abord, lorsque vous prenez, d'ailleurs, il parlait donc des enseignants qui n'ont pas le doctorat, etc. Je parlais de gouvernance de l'enseignement supérieur. Les tests l'ont prévu exactement. Lorsque vous êtes professionnel, on prend par exemple Isidore, il est journaliste qui veut bien intervenir, que ce soit en année de licence ou de BTS ou au master, les critères sont clairs. Soit il a la licence, il y a un certain nombre d'années d'exercice professionnel requis
et d'expérience
pour vous permettre d'enseigner à ce niveau-là, tout de même comme le master. Sinon, pris dans sa globalité, on sait véritablement que vous avez le master lorsque vous faites, par exemple, le cursus académique. Vous ne pouvez pas enseigner, même évaluer un étudiant en année de master. Et aussi, pour faire rappeler également que, en réalité, lorsque vous prenez tous ces cursus-là, toutes les évaluations sont des examens. Mais cela est parti du fait que, vous avez vu récemment, il y avait eu en tout cas un problème lié à des diplômes contestés au Nigeria, etc. Mais également d'autres également. Puisque vous avez évoqué la question de compétences, mais également de compétitivité. Comment on peut être dans un même pays où pratiquement on dit voilà, le pays est très bien coté en ce qui concerne l'enseignement supérieur, mais au même moment vous avez deux étudiants qui ont fait pratiquement les mêmes parcours dans deux universités différentes, mais qui n'ont pas les mêmes compétences. Mais au-delà de ça également, le grand problème normal, je pense que tout le monde devait donc s'en réjouir. En réalité, lorsque vous prenez, par exemple, vous avez un master dans une université privée, il est très difficile que vous puissiez vous inscrire en thèse, quelle que soit la moyenne que vous avez, en thèse à l'université, par exemple, publique. C'est très difficile. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette harmonisation, le problème serait définitivement réglé. Nous avons des étudiants qui sont évalués dans les mêmes parcours et en termes d'examens, etc. Même si par le passé, nous savons que, en tout cas, les diplômes sont tous des examens, les évaluations sont tous des examens. Nous savons comment ça se passe. Il y a des gens qui sont inscrits dans les parcours qui n'ont jamais mis P, mais qui s'en sortent véritablement donc avec une qualification. Par quelle alchimie? Or, lorsque vous passez aujourd'hui les concours, et d'ailleurs même, il y a un programme présidentiel, entre-temps, on demandait, on a dit, voilà, on veut telle université. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a des doutes émis sur certaines qualifications des universités où on ne les prend pas au même niveau, en tout cas de rigueur en ce qui concerne l'enseignement donc, qui est enseigné. Donc, pour taire toutes ces supputations, etc., voilà l'harmonisation qui est mise en place. Et je pense que bien avant même cet atelier, je pense que le ministre avait fait un travail qui était devenu pratiquement ennemi des universités privées parce que la rigueur en termes de séquence en ce qui concerne les examens, les parcours étaient véritablement définis. Donc je pense que c'est la suite logique que le ministre Kankan est en train de mettre en œuvre. Mais je pense que cette rigueur est très importante, faisant en sorte que demain également, en ce qui concerne les enseignants également, il faudrait, parce que ici, c'est la compétitivité. Les universités seront donc cotées en fonction des nombres des étudiants donc, qui ont réussi avec quels moyens. Donc, vous êtes obligé de voir des enseignants assez compétents, même si les règles prévoient que vous avez tel nombre d'expériences, mais il faut avoir la pédagogie, comment transmettre, en tout cas, l'enseignement. Donc, tout ça là, permettra qu'on ne prenne pas tout le monde comme enseignant, qu'on soit dans le public ou dans le privé.
Mais
ça résout définitivement le problème.
Merci. Rapidement, Eric.
Parce que, d'abord, avant qu'une université ne reçoive son agrément, il y a un travail qui se fait en amont.
C'est tout un processus.
C'est un processus. Et donc, dans ce processus-là, il y a également l'évaluation des enseignants. Et je crois que le ministre Kankan nous avait dit quelque chose ici et qui est très primordial, c'est quand même les partenariats entre les universités privées et les universités publiques. Cela sous-entend que les professeurs qui sont dans les universités publiques peuvent apporter leur contribution dans les universités privées.
Mais c'est ce qui se fait.
Et je crois que ça se fait déjà et c'est à saluer. De l'autre côté, quand Isidore parlait de l'office des examens, je crois que aujourd'hui l'office des examens est déjà même inclus dans la direction de l'enseignement supérieur. Et je crois que tout ça, ça permettra quand même de bien régler le problème.
Merci, merci.
C'est un sujet très vaste.
Vous
savez, harmoniser les programmes, c'est aussi refuser de s'adapter aux évolutions du marché. Il faut laisser les écoles aussi proposer les programmes variés. Évitons de scléroser la formation. Parce que nous avons aujourd'hui sur notre marché beaucoup d'étrangers qui viennent aujourd'hui pour des diplômes. Lorsque on essaie véritablement de l'enseignement, ce n'est plus adapté peut-être à l'idée qu'ils avaient avant d'arriver. Donc cela risque de faire fuir, en tout cas les étudiants étrangers, sur notre tête. Il y a également ce bémol-là qu'il faut véritablement.
Non, en fait, je voulais faire remarquer que l'ancien directeur des enseignements supérieurs professeur Assimah Kpatia m'avait accordé une interview l'année dernière ou avant l'année dernière. Mais il n'est pas d'accord sur certains nombre de choses.
Comme quoi?
Ah oui, il n'est pas d'accord sur... Je vais vous faire encore relire. Et il disait,
Mais il était devenu l'ennemi, et l'ennemi à abattre. Il a fermé beaucoup d'universités privées.
Ouais.
Qui ne retournent pas aux normes.
Ouais.
Mais est-ce que cette rigueur existe toujours?
Bien sûr.
Avec Johnson et c'est Diondo.
Ouais.
C'est Diondo. Oui. Donc, il faut toutes ces choses-là. Il faut d'abord que les gens qui s'y connaissent s'entendent. Sinon, comme il le dit, on risque de scléroser l'enseignement supérieur.
Merci beaucoup, cher confrère. Je sais que c'est un sujet passionnant et c'est un sujet vaste aussi. Nous allons revenir là-dessus, puisque dans nos débats, nous revenons toujours alors sur les différents aspects de ces sujets. Mais on va aborder le dernier sujet qui est le sujet alors de la politique. La politique, il y a les journaux qui sont revenus alors sur le meeting alors du dimanche dernier, le meeting de l'opposition pour contester la 5e République ou la nouvelle constitution. Il y a le journal Le Correcteur qui est revenu sur le sujet. Le journal écrit « Meeting à Kassimé, les opposants à la nouvelle constitution annoncent une offensive d'envergure nationale ». Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est le journal Le Médium. Le Médium écrit « Politique, opposition ». Opposition togolaise du business au dos du peuple. Oui, Eric, je sais que le titre vous a fait rire. Oui, mais quand on prend aujourd'hui cette manifestation de l'opposition par rapport à la 5e République, c'est la contestation, c'est depuis l'annonce même d'ailleurs de cette 5e République, nous avons fait le débat ici en studio. Et finalement, la contestation, ça continue.
Oui, mais quand on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, il faut le faire savoir. Je crois que c'est ce que fait l'opposition. Mais moi, ce que je dis, c'est peut-être le timing. Est-ce que c'est le moment ou bien ils ont été en retard ou ils se sont pris un peu trop tard par rapport à l'avancée et de la mise en place des institutions de cette 5e République. Est-ce qu'il suffit de faire des meetings, de faire des manifestations publiques pour que l'avancée de cette 5e République-là soit anéantie? Moi, je l'avais déjà dit, je crois, il y a quelques semaines ici, qu'il faudrait plutôt dialoguer avec le pouvoir en place. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui bloquer ce qui est en train de se mettre en place avec un Sénat qui est déjà là, et bientôt on aura un président de la République, et après on aura le président du Conseil des ministres. Ce n'est que ces deux institutions-là qui restent pour que tout soit bouclé. Mais s'il ne faut pas arriver à ce niveau-là, est-ce que c'est les sorties, les meetings,
les manifestations
publiques qu'il faut ou discuter directement avec le pouvoir en place?
Isidore?
Non, je n'aime pas la même lecture. Je dis qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire.
Tu n'es pas obligé.
Je n'aime pas la même lecture. Et je dis que, bon, dans un pays qui se respecte, il faut laisser aussi les voix dissonantes s'exprimer.
Mais c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu le dimanche dernier.
Bon, évidemment. Vous avez vu tout ce qui a entouré, hein, la tenue même de ce meeting. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer. Je pense à moi, à mon humble avis, que mais c'est le peuple togolais qui doit s'exprimer. Le péché originel de cette nouvelle constitution, c'est que le peuple n'a pas été avisé. Le peuple n'a pas été avisé. On n'a pas consulté le peuple. Donc, laissons les gens comprendre les enjeux. C'est très important. Est-ce que les gens savent qu'aujourd'hui, le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct? Beaucoup de gens ne le savent pas. Il faut les sensibiliser. Et ceux qui le font sont dans leur rôle. Il faut les laisser le faire, même jusqu'à Kara, ou partout où ils vont. Mais il faut leur laisser faire. Et quand le peuple saura que, ah, voilà les enjeux qui se trouvent, le feu va s'exprimer. Mais la volonté du peuple, personne ne peut l'étouffer.
Mais il y a aujourd'hui, enfin, au même moment, il y a le gouvernement qui a lancé une campagne de sensibilisation sur cette nouvelle république. Et est-ce que ce n'est pas pour sensibiliser également?
Non, on met la charrue avant les bœufs. Et ce n'est pas normal. Nos autorités ne devaient pas faire ça. En principe, on aurait pu faire cette sensibilisation. Demander l'avis du peuple avant d'adopter ou de d'adopter et même
de promulguer
cette constitution. Ça, c'est le péché mignon qu'on doit corriger. Et je ne sais par quel moyen le gouvernement ou les promoteurs de cette constitution vont le faire. Mais la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. C'est ce que moi j'ai à dire.
Merci Isidore. Oui, Adam. Oui, à la une de votre journal, vous écrivez « Contestation de la 5e République ». Un débat faussé par des postures partisanes, ça, vous citez justement Maître Emmanuel Cognon du MTU, c'est ça?
Oui, bien évidemment. Vous savez, moi je pense que, pour la plupart étant, lorsque vous lisez bien les acteurs politiques, je pense que sur cet aspect de forme que venait d'évoquer tout à l'heure Isidore sur l'introduction de cette 5e République qui avait déjà fait l'objet d'un certain nombre de contestations.
Pas de forme, c'est de fond.
Non, la forme, c'est justement le fait que, puisqu'on a...
Mais c'est aussi dur.
Voilà,
c'est aussi,
voilà,
c'est aussi de fond. Oui, donc, c'est maintenant que la question de fond même, d'ailleurs,
voilà,
c'est vos annonces.
Donc, je pense que... en tout cas, il y a matière quand même à discuter là-dessus. Mais au-delà de tout, comme l'a dit tantôt Eric, je pense que les institutions sont en train d'être mises en place. Déjà, le fait qu'on ait dans une manifestation de ce genre de contestation sur cette 5e République, je pense que ce sont des valeurs à mettre à l'actif quand même de cette 5e République. Ça voudrait dire qu'il y a une certaine vitalité en ce qui concerne, en tout cas, le débat, la vie politique dans notre pays. C'est déjà un grand pas. Mais au-delà de tout, à partir du moment où ces institutions ont été mises en place, vous avez vu tous les acteurs pratiquement s'accordent du fait que les élections communales à venir, beaucoup iront participer à ces élections-là, même s'ils avaient refusé par le passé de participer à un certain nombre d'élections liées donc à cette contestation. Je pense que l'organisation future de ces élections également convient quand même dans cette 5e République. Ça voudrait dire quelque part que, au lieu, maintenant parlant donc du fond, je pense que parlant du fait que Eric le disait tantôt, qu'il faudrait s'accorder, puisqu'il y a eu des articles qui ont été cités, ça voudrait dire que cela est perfectible. Je pense que ce dialogue permettra quand même d'apporter des éléments pour rendre aussi, en tout cas, belle cette nouvelle constitution qui, de mon point de vue, cette page-là tend déjà à être tournée. Il l'a dit tantôt, il ne reste que ces deux. En tout cas, les institutions à mettre en place pour boucler la boucle.
C'est lui
qui l'a dit. Pour boucler la boucle, ça veut dire que la page est en train d'être tournée. Or, ils avaient quand même des éléments, parlant donc du fond, à rajouter sur certains articles qui ont été cités. Donc, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on s'attarde sur ces aspects-là pour rendre, en tout cas, assez
perfectible
donc, cette nouvelle constitution. Parce que ce qui est en train d'être dit, moi, je pense pas que c'est une réalité.
Merci, cher confrère. Nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat, puisque nous avons déjà traversé midi. Et donc, on va donner la parole à nos auditeurs sur nos deux numéros 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour et maintenant nous vous donnons la parole sur nos deux numéros 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et également, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne.
Allô,
bonjour madame ici.
Oui, je suis la première.
Oui, bonjour.
Pour une fois. Voilà. Moi, je cogite beaucoup. Je me dis, le président veut quoi au juste pour nous et le pays? Il sert sur des institutions périmé, obsolète depuis des années, quoi. C'est-à-dire que tout est périmé dans le pays. Et la présidence, les institutions, tout, tout. Et bien, je crois. Et puis, est-ce qu'on gouverne un pays sur l'adage, le chien aboie, la caravane passe, le train est parti, vous le rattrapez ou vous restez à la gare, tout ça. Est-ce qu'on gouverne un pays comme ça? La France le fait aussi. La France gouverne sa France sur un adage pareil, civil. C'est pas normal, c'est pas bon pour l'histoire, quoi. Et puis, il nous a promis les réformes démocratiques en 2008, en arrivant en 2005, comme il est arrivé. Où s'en est avec ce truc-là? 2015, l'APG lui donne droit jusqu'en 2000. Mais là, il veut se transformer en un seigneur, un roi ou un dieu. On n'a pas de l'eau à boire dans la capitale déjà. Hein? Il ne pourra rien faire. Quand il dépasse un mandat, là, ils en ont fait 12 de 5. C'est pas normal. Il doit le comprendre.
Merci, madame.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-nous. Les sénateurs vont être légers. Au 2 février, ils ont leur comment on dit ça, leur sens là. Je veux le savoir.
Qui les sénateurs.
Et ils vont travailler où? Oui, en gros, quoi.
D'accord.
Dans quel, okay. Parce qu'il nous tue. L'État a tout noué depuis 60 ans qu'il est là. D'accord. Ils ont tout noué chez les gens.
Merci, madame, ici, pour votre intervention. On va donner la merci. Parole à d'autres personnes. Bonjour, Pascal. Comme l'a dit votre confrère, l'équipe nationale du Togo doit être dissoudre et investir cet argent dans d'autres disciplines. Nos joueurs ne sont plus venus alors pour hisser haut le drapeau, mais aujourd'hui, qu'il fasse en sorte de repartir, même si c'est avec un point. Merci, c'est André qui nous écrit depuis Dakar. Allô?
Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour, Patrick. Comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Allô?
Oui, je vous écoute, Patrick. Allez-y.
Ok, je salue tout le monde. Hein. Ce matin, j'ai envie de parler du foot. Vous savez, ça nous fait un peu mal quand on voit notre équipe nationale évoluer de la sorte. Ceux qui ont commencé par supporter cette équipe ont le cœur amer. On se rappelle les années glorieuses de cette équipe nationale. Mais une équipe nationale, on peut pas, ce n'est pas par une élection que les joueurs sont choisis. Nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe sur le terrain. Ça ne nous a pas. Mais jouer d'abord, avant qu'on nous dise, voilà, vous avez joué, mais la chance ne vous a pas accompagné. Comme Eric Lassie vient dit, il n'y a pas fond de jeu. Mais qui n'a jamais tapé dans le ballon? Mais regardez nos équipes de D1 même, Asco par exemple, et Barakoud. Mais si c'est les équipes-là qui affrontaient la Mauritanie la dernière fois, on n'aura pas ce score. Mais regardez le portier. Regardez le comportement du portier. Le problème du Togo, ce n'est pas la fédération, hein. Ce n'est pas Baudet. Hein. Les joueurs là, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est pas normal. L'entraîneur, lui, il prend ses millions, mais il peut donner le possible, mais arriver sur le terrain, mais ça vous revient, c'est comme le militaire, arriver sur le front, ce n'est pas le chef qui va te dire de tirer sur telle personne. Défends-toi pour le nom du pays. C'est normal ce qui se passe là. Ça hurissant. Les joueurs même ne foutent rien. Et vous voulez qu'on s'attende à quel score? Mais quelqu'un l'a si bien dit, hein, il faut dissoudre cette équipe. Et aussi, il n'y a pas un leader. Regardez dans les clubs D1 européens, là, combien de Togolais évoluent dans ces clubs? Mais par rapport au Sénégal, au Nigeria, où le choix même est difficile pour la sélection.
Merci beaucoup, Patrick. On va donner la parole à d'autres personnes. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Et également, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Limani.
Oui, bonjour, comment vous allez?
C'est Natima.
Oui, Natima, allez-y.
Oui. Je dis, réellement, j'avais l'habitude de dire, hein, si ce que je fais est bon, que Dieu me laisse continuer. Si ce que je fais, que Dieu me laisse continuer.
Que Dieu me barre la route.
Quand, vous voyez, sauf si c'est la même chose. Là où ça s'en va, là. C'est comme ça. Mais c'est rien de mal qui a fait ça. Hein. Mais viens se barrer la route. Bonne émission.
Bonne journée à toi et Natima et 90-86-35-35. Allô. Allô, bonjour. Allô. Bonjour Pascal, comment vous allez? Concernant les éperviers, je pense que l'équipe nationale est maudite et que nous devons commencer par le football à la base et aussi la professionnalisation de notre championnat. Merci et bonne émission, c'est Hassan depuis Casablanca. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
C'est Kouma.
Kouma, vous nous appelez de quel quartier?
Foreva.
Foreva, allez-y.
Je voudrais poser une question. Vous dites que maintenant on va procéder à une campagne d'explication. Et après ça, on va remettre la chose en référendum à une vote. Ou bien comment ils vont procéder?
Alors, comment il y a une campagne de sensibilisation qui est ouverte depuis le vendredi dernier. Et donc, ça a été clôturé plutôt hier. Donc, pour le moment, rien n'est signalé sur ce qui concerne alors le référendum. Puisque la nouvelle constitution a été déjà promulguée.
Nous demandons, nous qui ne sommes pas allés à l'école, c'est comme ça qu'on procède. Et quelqu'un parmi vous qui faut discuter. Vous faites quelque chose sans le consentement du peuple et puis vous dites qu'il faut discuter. Alors que c'est eux qui sont au pouvoir avec tous les moyens de force. C'est une bonne mission. Le Togolais est laissé à son sort.
Merci Kouma pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. On va recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mardi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
D'accord, allez-y.
Oui, là, il peut mieux faire. Donc, vu, Darien est venu avec son staff. On l'a dit que si ça ne passe pas comme ça, nous devons nommer, comme nous nommons aussi les sénateurs. On a pu proposer quelqu'un avec qui il va travailler. C'est pas fait marcher. Ça, c'est le côté football. Concernant la politique, vous allez voir même au niveau de l'UNIR, excusez-moi, ils ne se font pas confiance. Même vu la géopolitique, le président est toujours du Nord, le premier ministre est du Sud, mais jamais, on n'a jamais proposé un homme du Sud à la tête de l'UNIR. Quand tu fais le sondage qui va vers le Nord, on dit qu'ils n'ont pas confiance à l'homme du Sud. C'est ce que les gens cachent. Ils pensent qu'ils font une bonne politique. C'est le meilleur programme qui marche avec l'UNIR. Et c'est ça qui casse l'opposition aussi. Donc, si l'opposition aussi fait la géopolitique, par exemple, ils prennent Adi et Mbogué comme leader pour conduire les prochaines élections, ils vont renverser la vapeur en un rien de temps. Si je me trompe, regardez Nakaba, regardez Agboyomé, ils devaient être au pouvoir. Mais non, parce qu'ils ne sont pas confiants. Bonne émission.
Merci, Monsieur Nyamavo. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mardi. Nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Mais rapidement, je lis cette réaction d'un auditeur. L'opposition ne peut rien faire face à ce régime dictatorial car la démocratie n'existe pas encore au Togo. Merci à vous et bonne émission. C'est Noël de puis Noukafou. Eric, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité, votre réaction?
Non, mais je pense que les Togolais sont quand même unanimes par rapport à ce qui se passe autour de l'équipe nationale. Et donc, tout le monde souhaiterait que l'équipe aille de l'avant et que l'équipe gagne beaucoup de matchs. Maintenant, mon avis, c'est qu'il faut forcément une nouvelle organisation autour de cette équipe nationale. Quand je parle d'organisation, ce n'est pas changer les hommes qui sont là, mais c'est de repenser la chose afin que chacun se sente impliqué dans ce qui va désormais se passer. Je crois, c'est vrai, tout le monde ne peut pas être au même niveau. Aujourd'hui, le Sénégal est premier en Afrique, mais le Togo ne peut pas arriver à ce niveau s'il n'y a pas une certaine discipline au sein de, autour de cette équipe. La deuxième chose, c'est ce qui concerne la politique. Je crois que les avis sont aussi partagés. Quand j'ai dit qu'il faut dialoguer, c'est que je pense que quand il y a un problème, nous sommes tous des Togolais, nous sommes d'une même famille. Quand nous avons des problèmes, comme on dit, le linge sale se lave en famille, nous devons nous asseoir pour discuter. Il ne faut jamais rompre le fil de la discussion, du dialogue. C'est très important.
Merci Eric. Oui, Isidore.
Non, je pense que les Togolais ne sont pas dupes. Hein. Et à travers leurs interventions, bon, c'est qu'un repli qu'on veut nous imposer. Beaucoup ne sont pas d'accord. Je n'ai pas fait le sondage, mais quand vous suivez tout le développement des gens, quand l'interactif que vous venez de faire, beaucoup de Togolais ne comprennent pas les enjeux. Et c'est important. Un peuple comme ça ne peut pas être tout le temps résigné. Un jour viendra, le peuple va s'émanciper de ceux qui veulent les soumettre ou dans une forme de dictature ou dans une forte forme de monarchie. On est en train de faire une monarchisation du Togo. C'est ça, c'est ce que je pense.
D'accord.
Et le peuple n'est pas dupe.
Merci.
Maintenant, concernant le football, mais la plupart des joueurs, je l'ai dit, viennent en villégiature. Ils n'ont pas la compétition dans les jambes. Ils viennent seulement pour prendre leur premier parti et nous narguer dans le pays. C'est ça. Ils sont payés à hauteur de millions. Mais le 4 à 1 n'a pas un million par mois. Quelle est la productivité? Qu'est-ce qu'ils font? Donc, il faut revoir tout ça. Il faut faire table rase de toutes
Isidore.
Ces choses-là.
Merci, Isidore. Oui, Adam? Rapidement.
Oui, bon, moi je voulais intervenir sur l'auditeur qui a parlé du Parti Uni, parlant du fait que son a nommé. Vous savez, moi je pense qu'il faut la géopolitique, mais le tribalisme, il faudrait quand même qu'on puisse renoncer à cela en ce qui concerne la politique. Le premier représentant du Parti Uni, vous savez, c'était en 2013 que Unir plus franc, c'était un sudiste, Aïdam, même si l'acronyme avait changé. Il était le premier responsable, le premier VP, parce que c'était le vice-président. Mais ici, on a dit secrétaire exécutif. Donc, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse se départir de ce tribalisme pour faire évoluer nos partis politiques.
D'accord. Merci, Adam Adronou, d'être passé dans cette émission. Mais
c'est moi.
Avant de clôturer cette émission, permettez quand même que je souhaite joyeux anniversaire à une grande dame de la radio. C'est Madame Masonia Dédé Houlédé qui célèbre dit Dadédé, bien sûr, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Dadédé, joyeux anniversaire à toi.
Joyeux anniversaire, Dadédé. Joyeux anniversaire.
Merci beaucoup.
Joyeux anniversaire, Dadédé. Joyeux anniversaire.
Merci beaucoup, Eric.
Bravo.
Merci, Isidore. Merci aussi, Adam. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Thomas Itek aussi de la TV qui est à la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Le plaisir. pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.